parole est au camarade Marcel Cachin.
Camarade, les soviets en France, les soviets partout, ce mot d'ordre domine désormais tous les rassemblements de prolétaires.
Aujourd'hui, Jonathan Thomas va nous parler des disques communistes produits par la coopérative ouvrière de TSF sous les marques de fabrique Piatiletka et La Voix du Peuple. Monsieur Thomas, tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est cette coopérative ouvrière de TSF et comment cette entreprise radiophonique en est venue à produire des disques ?
Alors, la coopérative ouvrière de TSF, que je vais appeler à partir de maintenant COTSF, a été fondée en 1926 par des militants communistes qui voulaient rendre la radio accessible aux ouvriers, qui voulaient vendre des pièces détachées pour assembler des postes, voire vendre des postes qui soient à la fois fiables et bon marché, pour initier le public ouvrier à la pratique de la radio, qui était réservée à des personnes qui avaient un peu plus d'argent. Donc l'accès à la radio est véritablement un enjeu politique important à l'époque, puisque la radio a été très vite identifiée dans la première moitié des années 20 comme un média politique très puissant un peu partout dans le monde et par des hommes politiques de tous bords. On peut même dire que c'est aussi pour cela qu'en France, on a placé la radio sous un monopole d'État qui a interdit à peu près toute parole politique partisane d'avoir accès aux ondes. Et le Parti communiste souhaite évidemment, lui aussi, avoir accès à la radio et la COTSF va lui servir de relais dans ses tentatives de s'approprier le champ des pratiques radiophoniques. À partir de 1927, le Parti communiste travaille à l'élaboration d'une politique de la radio qui va d'abord consister en la récupération des radioclubs, qui sont des institutions assez nombreuses, influentes, dans lesquelles on discute de techniques de la radio, d'assemblage, de la meilleure façon de capter les émissions avec le moins de parasites possible. On discute aussi dans ces radioclubs de l'avenir de la radio et notamment de son organisation en France qui laisse beaucoup à désirer. Et ces radioclubs sont considérés par le Parti communiste comme des institutions bourgeoises. Et donc le Parti communiste souhaite dans un premier temps les infiltrer pour en faire des radioclubs ouvriers. En fait, bon, cette tentative n'aboutit pas dans un premier temps. Puis au début des années 30, le parti va chercher à lancer, donc sur l'impulsion de Moscou, ses propres radioclubs ouvriers, notamment pour organiser des écoutes collectives et militantes des émissions diffusées depuis l'Union soviétique. C'est à ce moment-là qu'on commence aussi à s'intéresser à la diffusion de disques pendant les réunions communistes et qu'on expérimente la diffusion d'abord avec des disques de piètre qualité en provenance d'Allemagne, puis à la fin de 1931, début 1932, il est finalement décidé que le Parti communiste devait disposer de ses propres enregistrements. Et c'est effectivement le cas en avril 1932, où la COTSF produit donc ses premiers disques communistes sous la marque Piatiletka, le disque prolétarien.
Et comment le Parti communiste va-t-il utiliser le disque alors ?
Alors principalement pour faire de l'agitation en période électorale, ce qui paraît en fait assez classique, mais en 1932, le Parti communiste est bien la seule organisation politique à concentrer sa production sur ce type de propagande, puisque, comme on l'a vu, l'ASFIO produit plutôt des disques pour une forme de propagande éducation, et Disque et Berthaud, pour l'Action française, produit plutôt des disques pour l'agitation hors des périodes électorales. Donc les disques communistes doivent, comme les disques socialistes, se faire entendre pendant les réunions politiques, pendant des fêtes, chez les militants, etc., etc. Mais le Parti communiste est le premier parti à concevoir une opération de propagande qui mobilise le disque aux côtés d'autres médias. Cette opération est lancée pour les élections municipales de 1935 sous le nom de La Voix du communisme. Et à cette occasion, donc, Piatiletka crée une série de 10 disques pour pouvoir mêler en quelque sorte le son des orateurs et des chants aux affiches, aux tracts et aux autres supports imprimés conçus pour animer la campagne communiste. Autre pratique a priori spécifique au Parti communiste, au moins dans la première moitié des années 30, c'est la diffusion de disques par des voitures équipé de haut-parleurs. Donc on a déjà une première occurrence de cela en 1932 pour la campagne des élections législatives, mais en 1935, l'Humanité équipe une voiture de haut-parleur et l'utilise lors d'une marche sportive, également organisée par le journal, donc la marche Paris à Loin, dans le nord de la France. Et la voiture de l'humanité va circuler entre différentes villes du nord pour organiser des événements politiques impromptus grâce à cette voiture sonore. L'idée d'adosser ce type de propagande à des événements sportifs itinérants sera reprise au cours de la seconde moitié des années 30 avec d'autres voitures sonores qui vont suivre le cours du Tour de France pour le Parti communiste, puis plus tard pour le Parti socialiste.
Alors, outre ces opérations de propagande, quelles sont les autres spécificités des disques communistes ?
Alors, une première spécificité de ces disques est relative à ses contenus, notamment dans un premier temps à ses contenus musicaux. Dans les autres maisons de disques politiques, les chants sont souvent enregistrés par des interprètes dont ces maisons se réclament du prestige en disant par exemple que tel baryton appartient à l'Opéra de Paris, tel ténor à l'Opéra Comique, qu'il a reçu un premier prix de conservatoire, etc. etc. Chez Piatiletka, on enregistre des chorales amateurs, des chorales ouvrières, pour d'une certaine façon rendre les chants prolétariens aux prolétaires. Donc il est aussi question de signifier que les chants prolétariens ne peuvent sonner vrais, ne peuvent sonner authentiques que quand ils sont chantés par des prolétaires et pas par des bourgeois, puisqu'on peut trouver éventuellement des versions de ces chants chantés par d'autres chanteurs qui ont peut-être une meilleure éducation musicale, qui vont chanter plus juste, qui vont faire moins de fautes de rythme ou de hauteur que ces chanteurs ouvriers. Mais donc, voilà, le Parti communiste préfère l'authenticité à la qualité musicale ou à la justesse musicale. Par ailleurs, la chorale, qui symbolise généralement un collectif harmonieux, un collectif uni, est vraiment la formation vocale qui représente le plus le catalogue Piatiletka. On voit donc que la musique est pleinement investie de son répertoire à ses interprètes d'une forte puissance de symbolisation politique. Alors, autre spécificité qui touche cette fois les enregistrements de discours, donc certains de ces enregistrements sont encadrés par des acclamations qui consistent à l'annonce de l'orateur qui va parler, à des applaudissements, à des cris, parfois à des internationales chantées. Donc on trouve aussi un discours de Marcel Cachin avec un accompagnement musical en fond tout au long du discours. Cet accompagnement étant en fait une internationale instrumental. Et là, on voit bien qu'il s'agit de pratiques de montage qui sont destinées à augmenter l'efficacité du discours. D'un côté, en donnant à entendre son effet et l'effet également du charisme de l'orateur sur un auditoire qui donc acclame le discours et l'orateur. Et de l'autre côté, à utiliser les affects de musique en musicalisant le discours pour soutenir les idées du discours par les affects que transmet la musique. Enfin, il y a une dernière spécificité qui concerne plusieurs enregistrements, là encore de discours parus au début de 1936. Et ces enregistrements sont en fait des versions très abrégées de discours qui ont été prononcés par des grands orateurs du parti lors du congrès national du Parti communiste en janvier 1936. Alors, il faut savoir que ces disques sont vendus au même moment que des brochures qui, elles, proposent l'intégralité des discours, ce qui donne en fait une idée de l'importance de la voix de l'orateur et de la diffusion du disque dans le dispositif de propagande communiste, puisqu'on a d'un côté une version appauvrie en information, mais sonore, et donc plus impressionnante, et de l'autre côté, une version plus riche en information, mais moins accessible et peut-être moins impressionnante. Et donc, on voit bien comment le Parti communiste investit le son comme un moyen de susciter l'adhésion par l'affect.
Piatiletka désigne en fait les plans quinquennaux qui sont appliqués à l'économie soviétique entre les deux guerres. Or, il se trouve que Piatiletka, la maison de disques, a elle aussi duré 5 ans. Hasard ou coïncidence ?
Alors, je dirais plutôt hasard, mais il est certain que Piatiletka, qui est effectivement un nom très soviétique, pouvait difficilement représenter un parti communiste qui devait, dans le cadre du Front populaire, se montrer comme un parti rassembleur, avec une légitimité nationale pour gouverner. Le parti communiste souhaitait se montrer en fait comme un parti ouvert à travailler avec des partis qu'il combattait pourtant avec vigueur au début des années 30. Donc la maison qui remplace Piatiletka à la fin de 1937, elle s'appelle La Voix du Peuple, ce qui me semble être un nom plus neutre et probablement beaucoup plus rassembleur que le nom de Piatiletka. Cependant, l'activité de cette maison n'est pas très intense. Elle se repose beaucoup sur le passé, puisque le gros de son catalogue, qui est peu fourni, on parle peut-être d'une quinzaine de disques, est constitué de rééditions d'enregistrements de Piatti-Letka. On va trouver aussi des enregistrements de Paul Vaillant-Couturier, qui est une des grandes voix du Parti communiste, qui est décédé en octobre 1937. Et donc ces enregistrements qui sont soit des reprises du catalogue Piatti-Letka, soit des enregistrements qui n'avaient pas été publiés du vivant de Vaillant-Couturier, sont alors publiés et publicisés pour travailler presque immédiatement la mémoire de cet orateur. Donc l'enjeu mémoriel est central pour la voix du peuple et on le voit encore dans le fait que ces rééditions Piatti-Letka font écho à la gloire du parti au moment de l'accession au pouvoir du Front populaire, puisque c'est à ce moment que le Parti communiste a connu l'apogée de ses effectifs et de son influence politique dans les années 30. Or, en 1938, quand sont donc édités les disques de la Voix du Peuple, le Parti communiste perd ses membres. On assiste donc à l'exploitation d'une mémoire à court terme, mais c'est une expérience qui va tourner court, puisque le Parti communiste et ses organisations seront interdites par décret en septembre 1939.
La base de données PS2X est soutenue par le DIMPAMIR et la région Île-de-France. Elle est réalisée au Centre de recherche sur les arts et le langage, un laboratoire du CNRS et de l'EHESS, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes.